la santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. La violence aujourd'hui est partout. On la trouve dans la ville, dans la famille, à l'école. Et on peut évoquer même l'idée d'un ensauvagement de la société qui paraît de plus en plus présente. Aussi, de nombreuses questions peuvent se poser. D'une part, c'est est-ce que c'est réellement une augmentation par rapport à ce qui s'est passé ? D'autre part, quels sont les facteurs qui supportent le développement de cette violence si elle augmente ? Et puis, d'autre part, quels sont éventuellement les meilleurs moyens de faire pour qu'elle soit mieux gérée ? Pour répondre à toutes ces questions qui sont d'actualité, qui sont difficiles, nous avons la chance d'accueillir le docteur Victor Rousseau, qui est psychiatre et qui a bien voulu nous accorder une partie de son temps. Merci beaucoup pour cette participation et peut-être, si vous voulez bien, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, je suis psychiatre, je suis praticien hospitalier, j'exerce essentiellement dans un secteur de psychiatrie dit fermé, qui accueille des patients qui sont en partie hospitalisés en mesure de soins sans consentement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément demandé à être hospitalisés, mais que leur état le nécessite. Je fais un petit peu, sur un temps assez court, des activités de recherche sur l'établissement, et il m'arrive assez régulièrement. Et je réalise également régulièrement des expertises psychiatriques à la demande de la justice, soit des expertises dites pénales, soit des expertises à la demande du juge des enfants.
Alors dans la mesure où on a beaucoup de questions qui peuvent se poser, je proposerais volontiers un petit plan pour que nos auditrices et nos auditeurs se retrouvent, avec tout d'abord une meilleure appréhension des chiffres, c'est-à-dire est-ce que vraiment la violence augmente, de quel type de violence on parle. Est-ce qu'on peut tout de même avoir une définition de ce qu'on peut appeler la violence, avoir son rapport avec l'agressivité, par exemple ? D'autre part, dans un deuxième temps, essayer d'expliquer quelles sont dans notre cerveau les structures qui participent à l'élaboration de cette violence, et avant que d'envisager de façon plus précise les moyens qui permettent de la limiter ou de la prévenir. Donc on peut, dans un premier temps, peut-être voir les chiffres. Est-ce que vraiment cet ensauvagement de la société dont on a entendu parler, est-ce qu'on peut la retenir telle quelle ? Et quels sont les chiffres sur lesquels on peut se fier ?
Pour ce qui est des chiffres, on peut s'appuyer sur des données qui sont officielles. Le ministère de l'Intérieur propose chaque année un état des lieux des différents faits et des condamnations qui sont proférées. Pour l'année 2025, il est noté une hausse des violences physiques d'une manière générale, à peu près plus 5% par rapport à l'année précédente, avec une augmentation assez significative, notamment des violences sexuelles, avec un progrès de plus 8% par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est des homicides, il y a un tout petit peu plus de victimes, on est sur 1% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Les tentatives d'homicide, elles, augmentent un petit peu davantage. Ce qu'on peut noter aussi de significatif, c'est une augmentation des infractions liées aux stupéfiants, que ce soit l'usage de stupéfiants, plus 6% par rapport à l'année précédente, ou surtout le trafic, où là on est sur plus 8%, ce qui commence à être un chiffre un petit peu plus significatif. Ça, on a une partie de l'explication, à savoir qu'en juillet et en août 2024, il y avait une très forte mobilisation des forces de l'ordre dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc comme il y avait un maillage policier plus important, ça a mécaniquement permis...
Un meilleur relevé,
c'est ça. Dans un contexte de regroupement de population et un contexte événementiel lui aussi assez particulier. Mais d'une manière générale, on note une augmentation progressive depuis 2020 de tout ce qui est acte délictueux, notamment pour tout ce qui est stupéfiant. Ce qui a d'augmentation assez significative aussi, c'est tout ce qui est escroquerie, fraude aux moyens de paiement, avec plus 8% d'augmentation par rapport à 2025. Par contre, tous les faits de violence ne sont pas forcément en augmentation, même si là on a déjà vu que l'augmentation est assez asymétrique. Tout ce qui est par exemple vol avec arme, là on est sur une diminution qui est très significative par rapport à...
Une diminution,
moins 7% par rapport à 2025. Tout ce qui est cambriolage, vol de véhicules, vol dans les véhicules, tout ça, pareil, ce sont des types de faits qui ont tendance à diminuer par rapport à l'année dernière. Ce qui augmente beaucoup, enfin, c'est tout ce qui est des délits un petit peu plus quotidiens, le refus d'obtempérer. Ça, c'est 11% d'augmentation. C'est un chiffre, un des chiffres les plus importants.
Oui.
Bah oui, c'est un chiffre des plus importants que là, on retrouve dans les chiffres qui nous sont donnés.
Est-ce qu'on a une idée alors de la place que prennent les jeunes dans cette augmentation? Puisque globalement, on peut retenir quand même que dans différents secteurs, il y a une augmentation, même si les homicides, heureusement, n'augmentent pas dans la même fraction. Mais est-ce que la place des jeunes devient plus importante? Parce qu'on entend souvent parler, ou on le voit avec les médias, des faits de violence de jeunes qu'on ne pouvait même pas imaginer. Des enfants même qui détruisent, qui viennent brûler leurs écoles, leurs classes. Enfin, c'est quelque chose qui paraît nouveau.
Alors, ça fait l'actualité avec des faits qui peuvent être des faits extrêmement graves. Pourtant, lorsqu'en fait on regarde les chiffres, depuis 2016, la part des mineurs parmi les personnes qui sont mises en cause, elle ne fait que diminuer depuis 10 ans. On est par exemple pour les vols violents sans armes, donc des vols assez entre guillemets communs, on est à moins 14% depuis 2016. La part des jeunes dans ce type de fait peut être importante. Il peut y avoir des faits extrêmement violents en lien avec les mineurs, mais globalement, la part des mineurs diminue. C'est une diminution qui est en pourcentage. Ça, oui. Je ne suis pas capable de dire si c'est parce qu'il y a moins de jeunes qui passent à l'acte ou si parce que mathématiquement, il y aurait plus d'adultes, ce qui donnerait numériquement le même résultat.
Et si on voit maintenant le côté de l'intervention des jeunes, non pas en tant qu'agresseurs, mais en tant qu'agressés, où on voit beaucoup de phénomènes de violence qui s'exercent sur des enfants, qu'il s'agisse par exemple de harcèlement avec des enfants qui sont conduits au suicide parce qu'ils ont été harcelés, ou avec même des actes de violence sexuelle qui s'exercent sur l'enfant. Donc non pas la violence vue par rapport à l'enfant qui agresse, mais vue par rapport à l'enfant qui est agressé. Est-ce qu'on a une idée?
Alors oui, complètement. D'une manière générale, les victimes d'atteinte aux personnes, donc agression, vol, etc. C'est tout ce qui n'est pas une atteinte sur des objets. Donc les victimes d'atteinte aux personnes, elles sont plus jeunes que les victimes d'atteinte aux biens. Entre quelqu'un qui se fait voler sa voiture ou quelqu'un qui se fait agresser physiquement, en moyenne, la personne qui se fera agresser physiquement, ce sera une personne qui sera plus jeune. Et au contraire, les mises en cause, les personnes qui sont auteurs, elles ont tendance à être plus âgées.
D'accord, alors on aura l'occasion de revoir peut-être un peu les mécanismes qui sont susceptibles d'expliquer cette évolution, qui est quand même quelque part inquiétante, on peut reconnaître. Alors, si on voit là, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui supporte cette réaction de violence? Parce qu'on voit bien que si on distingue violence et agressivité, naturellement, on avait pu dire, alors si on prend Jean-Jacques Rousseau, je ne veux pas être faire le savant, mais on est ici quand même dans la patrie de Jean-Jacques Rousseau, qui classiquement disait mais tout le monde naît bon et c'est finalement la société qui le corrompt, alors qu'à l'inverse, Hobbes disait c'est le contraire, chacun est violent d'emblée et c'est la société qui finalement gère mal sa violence. De toute façon, le résultat est le même, c'est qu'il y a bien une explication à trouver pour expliquer cette violence native en quelque sorte. Donc ça veut dire que dans notre cerveau, quelque part, il y a un système qui nous protège, qui nous défend, soit qu'on est agressif vis-à-vis de l'autre parce qu'on veut se préserver soi-même, soit parce qu'on veut s'imposer par rapport à l'autre pour diverses raisons, parce qu'on veut se nourrir, parce qu'on veut se reproduire, parce que, etc. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer un petit peu dans cet aspect un peu neurobiologique, on dirait?
Oui, et puis il faut déjà qu'on commence effectivement par définir un petit peu ce qu'on entend par agressivité, par violence, parce que ce n'est pas forcément.
Alors comment on peut faire
la
différence entre les deux?
On pourra toujours trouver des définitions un petit peu précises, mais si on veut être sur un terrain de compréhension commun, on peut dire que l'agressivité, c'est un mode de communication, c'est quelque chose dont on est tous potentiellement capables. Une situation me met en inconfort, en danger, je peux me montrer agressif pour montrer que là, ça va pas, que là, il faut que ça s'arrête. Si jamais je me sens en danger, je peux me montrer agressif pour essayer de me dégager de cette situation. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours mauvais en soi. Effectivement, ça me permet de me défendre, et puis ça peut aussi, dans certains contextes, être vu de manière assez positive. On va dire d'un joueur de foot qu'il a un jeu agressif et que c'est ça qui lui a permis de marquer, on ne va pas lui en vouloir. Un boxeur sur un ring, on va lui demander d'être agressif. On ne va pas lui en vouloir.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir d'atteinte à l'intégrité de la personne, voire même aller jusqu'au crime.
Et c'est là où on va pouvoir justement mettre une frontière qui se discute, mais avec la violence. En disant, à partir du moment où on dépasse l'agressivité, qu'on est sur une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique, là, on n'est plus dans l'agressivité. Là, on peut parler de la violence.
Alors, bien sûr, sans vouloir marcher sur un sol qui n'est pas le mien, j'ai quand même le souvenir de mes études que, en ce qui concerne les pulsions de vie et de mort, Sigmund Freud avait pris une position très nette en disant nous sommes tous à la mesure de deux pulsions, une première qui était la pulsion de vie, celle qui nous permet d'une part de nous reproduire, mais celle aussi qui nous permet de nous nourrir et de poursuivre notre cycle de vie, et d'autre part la pulsion de mort. Est-ce que ces deux approches freudiennes, qui datent maintenant déjà d'un certain temps, est-ce que sont toujours valables?
Les approches freudiennes, donc psychanalytiques, c'est un cadre de lecture, c'est une manière d'interpréter des comportements. Ça peut être utilisé par certains pour essayer d'analyser un comportement. C'est pas forcément ce qu'on utilise, par exemple, en psychiatrie, pour essayer d'analyser un mode de fonctionnement ou un passage à l'acte hétéro-agressif, où on va plutôt se baser sur des nosographies, des catégories de maladies, en fonction des symptômes qui vont orienter vers telle ou telle pathologie.
Pourtant, il existe dans notre cerveau ce qui était appelé un centre de la violence et un centre du plaisir et de la récompense, qui sont des structures qui ont été repérées dans le cadre de notre cerveau. Alors, on parle de centre, c'est peut-être exagéré, on devrait parler plutôt de réseau, de circuit, de corrélat neuronal, enfin, je ne sais pas quoi, mais ces données, qui sont des données donc, d'anatomophysiologie, correspondent assez bien à l'aspect psychanalytique que défendait Freud, non ?
On peut faire un lien entre un comportement qu'on observe et une zone cérébrale. Après, c'est effectivement un raisonnement qui se veut assez simpliste, mais qui permet peut-être de comprendre un petit peu, parce que associer un comportement précis à une zone précise du cerveau, ça peut être utilisé pour de la vulgarisation, pour de l'explication, ce n'est pas quelque chose qui correspond à une réalité précise en pratique. Parce qu'effectivement, on est plus sur des zones qui se travaillent en réseau, ensemble, à des manières différentes, sur des fonctionnements différents. Mais vous avez par exemple effectivement le lobe frontal, donc c'est ce qu'il y a au niveau du front, qui est associé aux fonctions dites cognitives supérieures, c'est tout ce qui va être le raisonnement, la motivation, la prise de décision, la planification,
donc,
l'attention.
Donc qui apparaît plutôt modératrice alors dans le cadre de l'agressivité ou de la manifestation de la violence.
Qui peut être modératrice et qui peut justement être atteinte dans certaines situations pathologiques. Et cela peut se traduire par des faits de violence.
Il y a notamment, par exemple, dans un cas de traumatisme crânien, frontal.
Par exemple. Ou dans des états de démence, ce qu'on dit, des syndromes frontaux, avec donc une perte de cette activité-là, où il va y avoir une altération du contrôle des impulsions. Si je veux, je prends. Si t'es pas d'accord, je tape. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et donc, si cette fonction, lorsqu'elle est atteinte, peut amener à des comportements de violence, c'est que donc, lorsque cette fonction est saine, qu'elle doit participer au contrôle de la violence. Donc, c'est peut-être que oui, cette zone-là a un rôle qui est important.
Alors, à l'inverse, on a impliqué pendant un temps l'amygdale, qui est donc une zone cérébrale qui est proche du système limbique, qui lui a attribué un rôle particulièrement important pour la manifestation de l'agression. C'est-à-dire c'est là où la sensation de peur est ressentie, c'est là où l'émotion, lorsqu'elle est agressive, se manifeste, et où il y aurait alors là une zone qui soit une zone gâchette pour que se déclenche la violence. À tel point même, et je suis content que vous ayez évoqué cette possibilité de localisation, à tel point qu'on a même pu envisager une sorte de chirurgie psychologique. C'est-à-dire qu'on a même pu envisager le fait d'enlever, par exemple, l'amygdale pour guérir, entre guillemets, des personnes violentes. Ou encore, de façon plus générale, ce que les auditrices ou les auditeurs connaissent sous le nom de lobotomie. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette psychochirurgie ? Elle a existé ?
Alors, ça a existé. C'est un acte chirurgical qui est né d'un constat. C'est que les hôpitaux psychiatriques débordaient de patients dont on n'arrivait pas à apaiser leurs souffrances, qu'on n'arrivait pas à faire sortir de l'hôpital. La psychiatrie est arrivée en tant que spécialité médicale extrêmement tard par rapport à d'autres spécialités. Et c'était un petit peu la tentative de trouver quelque chose qui puisse être efficace. Donc là, pour le coup, l'imagination était sans limite pour essayer de proposer des thérapeutiques. Globalement, tout ce qui pouvait s'ingérer, que ce soit des métaux, des minéraux, tous les médicaments qu'on pouvait inventer, ça a été testé, avec une efficacité qui, dans le meilleur des cas, était extrêmement médiocre, et je ne parle pas des faits de maltraitance. Et en 1936, vous avez un médecin portugais, Moniz, qui, en coopération avec un collègue à lui, Lima, développe effectivement une thérapeutique, entre guillemets, chirurgicale, de dire ces patients-là qui ont un problème au niveau du comportement, des impulsions, si on va aller faire une destruction ciblée de la zone cérébrale qui amène à ces comportements violents, est-ce que on ne va pas éteindre la fonction et avoir un amendement de tous les comportements agressifs? Alors, entre guillemets, malheureusement, ça marche, parce qu'effectivement, ça a été assez utilisé, ça a été, entre guillemets, amélioré, ça a été un petit peu transformé. On peut parler du docteur Freeman, qui a beaucoup exercé aux États-Unis, qui a sillonné un petit peu les États-Unis pour proposer cette technique à énormément de monde. On est à peu près à 50 000 personnes aux États-Unis qui ont subi une lobotomie. Pour parler de manière un petit peu vulgaire, on prend un pic à glace, qu'on enfonce au niveau du plancher orbitaire, on détruit une partie du cerveau, et oui, effectivement, après, vous avez un patient qui, 10 minutes avant, était agité, qui criait, qui se débattait, et qui, là, se retrouve un peu apathique sur une chaise, et qui dérange beaucoup moins.
Alors, l'image du pic à glace est un peu traumatisante, mais on peut aussi imaginer l'installation d'électrodes. Et dans mon souvenir, c'est au Portugal où il y a eu les premières expériences qui ont été faites d'installation d'électrodes intracérébrales qui étaient commandées par radiocommande et qui permettaient d'avoir des modifications du comportement finalement à la demande. Et ce fait avait même été à l'origine d'une crainte. La crainte, c'est que sous une impulsion politique délirante, on ait pu essayer de réduire la violence ou l'agressivité de personnes par intervention, en leur mettant des électrodes et par radiocommande, les rendant des moutons.
D'un point de vue éthique, c'est quand même...
Et difficile à admettre, quand même.
C'est très, 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 très difficile à admettre.
Donc, ça veut dire que toutes ces tendances de chirurgie neuropsychologique ont été abandonnées.
Alors, ça a été complètement abandonné, d'une part, parce que c'était quand même assez barbare comme technique.
Ah oui, on peut dire.
D'autre part, parce qu'on s'est quand même bien rendu compte que tous ceux qui en bénéficiaient, c'était possiblement des gens qui étaient en souffrance, mais c'est aussi des gens qui pouvaient, entre guillemets, être considérés comme un peu nuisibles à la société. Et d'autre part, c'est parce qu'il y a eu aussi le développement d'autres thérapeutiques, notamment des thérapeutiques médicamenteuses, qui se sont montrées beaucoup plus efficaces et beaucoup plus sûres pour les patients.
Et avec peut-être aussi des échecs de cette chirurgie. Parce qu'on peut très bien imaginer que si, en effet, il n'y a pas un centre bien localisé de la violence, c'est-à-dire dans une perspective un peu réductionniste, mais qu'au contraire, c'est tout un ensemble qui travaille, un corrélat de neurones qui travaille en cohésion avec toutes sortes de zones du cerveau, et que dans ces conditions, si on supprime une toute petite partie comme l'amygdale par exemple, on ne va pas régler le problème. Donc ça veut dire que cette chirurgie, même si elle pouvait avoir des résultats tangibles, ne pouvait pas être exploitable parce que finalement, il n'y avait pas la réponse à la question. On ne guérissait pas les gens.
Non seulement on ne les guérissait pas, mais on détruisait une partie du cerveau avec une atteinte sur le fonctionnement quotidien qui était absolument effroyable, une atteinte cognitive, une atteinte comportementale, quand on n'arrivait pas jusqu'au décès de la personne.
Donc par conséquent, c'était une vision très réductionniste, ce qu'il ne faut pas avoir. On ne peut pas imaginer, il ne faut pas laisser nos auditrices et nos auditeurs penser qu'il y a dans notre cerveau une zone du cerveau qui conduirait à la violence et une autre zone qui, au contraire, la modérerait, de la même façon qu'il n'existe pas non plus une zone correspondant au plaisir ou une zone correspondant à la récompense. C'est tout un ensemble, tout un réseau de neurones qui fonctionne dans ces conditions et qui est alors... qui pose la question. La question, c'est entre l'inné et l'acquis. En effet, l'inné, c'est que nous disposons, on l'a vu au début de l'émission, d'un dispositif qui nous rend agressif, au bon sens du terme, pour nous protéger. Mais dans ces conditions-là, on peut considérer que c'est inné. En revanche, nous avons un acquis qui nous permet de bénéficier de cet inné, comme si c'était une boîte à outils que l'on met à notre main, pour faire en sorte qu'on soit adapté non seulement à notre propre main, donc à notre propre personnalité, notre propre tempérament, et également adapté à l'ensemble de la société. Alors, c'est un discours que j'ai là qui est peut-être trop complet et qui pose beaucoup de problèmes, mais la première chose qu'on peut retenir, c'est que la solution réductionniste qui consiste à dire qu'il y a un centre pour la violence, un centre pour la récompense, et si on agit sur l'un et sur l'autre, on va régler le problème. Ça, c'est faux.
Ça, c'est faux. On est sur une interaction très fine, des zones en réseau. Voilà.
Parfait. Alors, l'autre question, c'est celle de l'inné et de l'acquis. Dans le cadre de l'inné, on utilise parfois plusieurs termes qui ne veulent pas dire la même chose, mais je pense que là, vous pourriez nous apprendre beaucoup entre le fait du tempérament, dont on dit d'un enfant, ah, il a un tempérament qui est comme ci, comme ça, ou bien encore, il a un caractère qui est comme ci, comme ça. Et il y a des différences, ce n'est pas la même chose. Comment on peut essayer de faire la définition de tout
Alors,
ça
on peut, pour rester simple, on peut dire que le tempérament est inné. Vous demandez à des parents qui ont des enfants en bas âge, ils vont vous dire que leurs deux enfants ne sont pas les mêmes.
Donc sur
caractère.
Ce plan-là, Jean-Jacques Rousseau avait tort. On n'est pas tous faits selon le même moule.
Ah bah, on n'est pas tous faits selon le même moule. Chacun a son tempérament qui est inné. Le caractère, lui, entre guillemets, est acquis. Il se forme avec nos expériences, nos parcours de vie, nos rencontres. Et la conjonction des deux, au fur et à mesure de la montée en âge et jusqu'à l'âge adulte, va permettre de former ce qu'on appelle la personnalité, qui est donc une construction qui s'est faite sur des années et qui s'achève normalement avec un apprentissage.
D'où un rôle majeur de l'éducation.
D'où un rôle majeur de l'éducation et de tous les événements de vie qui peuvent affecter dans un sens ou dans un autre la personnalité, jusqu'à même des points pathologiques où on parle de troubles de la personnalité.
Alors, si on essaye d'approfondir un peu les choses, pour, non pas régler le problème, mais donner des réponses à la question de l'origine de la violence. On voit bien qu'on a un tempérament qui est inné et qui fait que, on a quand même un dispositif qui nous permet de nous protéger, en quelque sorte, de nous défendre. Ou bien encore que ce comportement, en fonction d'un environnement particulier, en fonction d'une éducation particulière, peut aller jusqu'à la violence, voire jusqu'à l'atteinte homicide. On le voit par exemple dans le cadre des violences sexuelles où on a quand même maintenant des féminicides qui deviennent relativement fréquents et que parfois on ne comprend pas bien. À l'inverse, on ne voit pas tellement d'agressivité qui se manifeste de ce type de la part des femmes. C'est surtout les hommes qui tuent leurs compagnes. Est-ce qu'on peut y voir là, dans le cadre de l'origine, une intervention hormonale, par exemple de testostérone, ou une intervention d'autres produits qui caractériseraient plutôt l'homme?
Alors, c'est une question qui est très complexe, parce que si vous recherchez à doser la testostérone chez tout un panel de personnes qui se sont montrées violentes, en moyenne, vous ne trouverez pas de taux de testostérone qui crève le plafond. Donc, on ne peut pas dire s'il est violent, c'est parce qu'il a un taux de testostérone élevé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le taux de testostérone, par exemple dans le cadre d'actes délictueux à caractère sexuel, ça peut avoir un rôle. Si vous avez des personnes qui ont des taux de testostérone particulièrement élevés, ça peut majorer un risque. Ça agit notamment sur les impulsions, sur la libido, Raison pour laquelle, dans certains cas très particuliers, on peut proposer des traitements dits freinateurs de la libido. Alors, ce n'est pas du tout une castration chimique, comme on peut le dire parfois. C'est exactement le même mode de fonctionnement que la pilule progestative.
C'est des traitements hormonaux.
C'est exactement le même fonctionnement que la pilule contraceptive. Ça va être une freination de la testostérone, ce qui va diminuer de manière très importante la libido et donc de diminuer le passage à l'acte.
Alors, on voit par exemple, quand je vous disais qu'il y avait plutôt des hommes qui étaient féminicides que des femmes qui étaient homicides, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure où, si on se réfère par exemple à l'opéra, Carmen, il y a une introduction de la chanson dont on se rappelle bien « Si je t'aime, prends garde à toi », ce qui est quand même une menace quelque part de la femme qui est faite par rapport à celui qui l'aime en principe. Est-ce qu'on peut imaginer dans ces conditions que les corrélats de neurones dont on a parlé tout à l'heure peuvent tantôt devenir agressifs ou favorables à l'agression ou au contraire favorables à la récompense, à tel point qu'on peut même avoir, par l'expression de la violence, une récompense en ayant plaisir à être violent? Est-ce que ce n'est pas une erreur de penser comme ça? Est-ce que c'est une réalité?
Alors, il faut, à mon avis, ne pas forcément chercher à vouloir vraiment donner une origine monocausale à un fait particulier, de dire c'est tel fonctionnement cérébral qui a fait que là, il y a eu un geste de violence. Pour répondre à la question, il peut y avoir des actes de violence qui sont associés à un certain sadisme. Et ça, c'est par exemple un facteur de risque important de récidive. Lorsqu'on sait qu'un acte de violence ou par exemple un acte à caractère sexuel s'est fait avec sadisme, c'est un facteur de dangerosité et un risque de récidive.
Alors, si on en vient maintenant à l'interrelation qui existe entre une prédisposition biologique et l'environnement, quel est le rôle de l'environnement alors, on verra également le rôle de l'éducation chez les jeunes, mais l'environnement, est-ce qu'il a un facteur qui peut être déterminant pour faire en sorte que de l'agressivité, on passe à la violence?
Alors, l'environnement, il a un rôle qui est extrêmement important. D'une part, parce que certains événements de vie peuvent être des facteurs de risque pour plus tard être auteur d'un acte délictueux ou être auteur de violence, que les événements de vie peuvent façonner des troubles de la personnalité qui peuvent eux-mêmes ou non être associés à des risques de violence. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, le fait de ne pas avoir grandi avec ses deux parents jusqu'à un certain âge, le fait d'avoir été victime de violence, le fait d'avoir un faible niveau socio-éducatif, le fait d'avoir de faibles ressources financières, tout cela sont des facteurs de risque de violence.
Et vous avez trouvé dans votre activité professionnelle, puisque vous faites des expertises, une relation qui vraiment doit être retenue entre des facteurs liés aux accidents de la vie chez l'enfant ou aux traumatismes vécus par l'enfant dans sa jeunesse et qui deviennent violents. Et est-ce qu'il y a cette relation donc entre un environnement qui n'était pas favorable et la manifestation de la violence à l'âge adulte?
Alors, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça. Ce sont des choses qui, en fait, sont assez bien décrites. De manière classique, pour ne pas dire caricaturale, lorsque vous avez une personne qui a commis des faits particulièrement violents, répétés, ou des faits à caractère sexuel, on va aller interroger sur le parcours de la personne, comment ça s'est passé au niveau de la sphère intrafamiliale, de l'éducation, des études, etc. Et on peut retrouver des parcours de vie assez similaires d'une personne autrice à une autre. On trouve souvent des personnes qui, elles-mêmes, ont été victimes de violences dans leur enfance, qui ont grandi avec ça, qui se sont façonnées avec ça, qui ont été exposées à tout un tas de consommations de drogue. La consommation de drogue, c'est le premier facteur de passage à l'acte hétéroagressif.
Et on voit alors, c'est peut-être un retour en arrière, mais sur le plan statistique, il y a une augmentation importante de l'accès aux drogues pour les enfants ou pour les adultes, pour les adolescents, pardon. Est-ce que les enfants, les adolescents, maintenant, sont plus souvent victimes de drogues? Par exemple, on voit le protoxyde d'azote, où les enfants, même très jeunes, l'utilisent.
Alors le problème du protoxyde d'azote, c'est que, en tout cas aujourd'hui, c'est encore d'accès extrêmement facile.
Trop facile.
Ah bah c'est en vente libre. Tous ceux qui achètent du protoxyde d'azote, ce n'est pas forcément pour faire de la chantilly. Ça a un effet euphorisant, ça a un effet euphorisant qui apparaît de manière assez rapide, donc on peut avoir une certaine appétence pour un produit comme ça. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui en consomment sont quand même bien au clair sur les conséquences possibles d'un point de vue neurologique, notamment.
Donc ce qui veut dire que là, il y a un effort considérable à faire d'éducation, non pas de l'éducation basique au niveau des parents, mais une éducation à faire y compris à l'école, pour une information sur ce que représente le risque toxique, qui permet par exemple à un enfant de tempérament, donc inné, à peu près satisfaisant, de passer à une personnalité violente du fait d'une consommation de drogue, d'alcool ou par exemple de protoxyde.
Alors l'éducation, elle est extrêmement importante, l'information, elle est extrêmement importante. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a eu une consommation qu'une personne va passer d'un statut non violent à violent, ça c'est sûr. On est toujours sur une addition de facteurs et d'événements qui font que. Mais oui, le rôle des toxiques, des drogues et surtout de l'alcool, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la mécanique du passage à l'acte.
Est-ce qu'on peut dire alors que ces drogues peuvent avoir un effet d'abolition ? Sinon d'altération du discernement au moment des faits s'il y a eu une action très violente.
Alors on va déjà du coup définir ce que c'est que l'abolition du discernement, parce que d'un point de vue juridique, ça a une définition qui est assez précise. Pour faire simple, depuis le droit romain, entre guillemets, on ne juge pas les fous. On peut reconnaître qu'une personne a commis un acte. C'est attesté, c'est avéré, c'est extrêmement clair. Oui, c'est cette personne qui a commis telle action. Mais si elle est coupable, elle n'est pas responsable. Parce qu'au moment des faits, elle n'était pas dans un état qui lui permettait de comprendre ce qu'elle faisait. Entre guillemets, elle était en dehors de la réalité. La question de l'abolition, c'est se poser la question, est-ce qu'il n'y a absolument aucune explication pour ce comportement, sauf une maladie psychique ? Cette personne qui a bousculé très violemment cette dame pour s'enfuir, est-ce que c'est parce qu'elle n'en avait absolument rien à faire de la blesser parce que ça ne l'intéresse pas? Ou est-ce que c'est parce qu'elle se sentait en danger, qu'elle était délirante, qu'elle était hallucinée, qu'elle pensait que cette dame en fait allait le tuer? C'est deux situations extrêmement différentes. Pour ce qui est de l'abolition du discernement et des drogues, en fait c'est une question qui est un peu plus compliquée que ça, parce que certaines drogues peuvent modifier la conscience de la réalité. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que pour autant, ça permet de reconnaître une irresponsabilité ? Bah, c'est un petit peu plus compliqué de ça, parce que personne ne force la personne à consommer des toxiques. On reste sur un acte qui est volontaire. Donc la question, c'est, d'accord, admettons, vous étiez dans un état délirant causé par une consommation de toxiques, mais la consommation de toxiques, à la base, elle était volontaire. Du coup, l'acte commis au final, est-ce qu'il faut qu'il soit considéré comme s'inscrivant dans une irresponsabilité parce que la personne ne savait pas ce qu'elle faisait, ou est-ce qu'il faut considérer que l'acte initial étant volontaire, eh ben, ça reste la conséquence d'un acte volontaire et donc de sa responsabilité.
Donc il y a là une discussion qu'il faut avoir présente à l'esprit lorsqu'on a le résultat d'une justice. Ou parfois on a l'impression que justice n'a pas été rendue parce qu'il y a des peines qui ont été prononcées qui sont manifestement minimes par rapport à la gravité de l'acte. Et dans ces conditions, il faut pouvoir, pour comprendre la décision du juge, avoir accès à toute une série d'informations que le grand public n'a pas. Donc c'est une façon de procéder qui est un peu difficile parce qu'on a l'impression que la justice ne fait pas son travail ou qu'elle le fait mal, alors que dans le cas par exemple d'un refus d'obtempérer, dans le cadre d'une fuite après avoir provoqué un accident, il y a toute une série de circonstances qu'il faut analyser. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que cette réflexion que j'ai vous paraît recevable ou si au contraire on peut imaginer qu'en effet il y a une appréhension de la punition, entre guillemets, qui n'est pas suffisante ?
Il faut effectivement avoir en tête qu'entre les informations qu'on peut avoir dans les journaux et tous les éléments qui sont en main de la justice, il peut y avoir un gouffre immense. On peut avoir la perception que la justice, effectivement, est laxiste. De ce que j'ai compris, en France, la justice est loin d'être laxiste. Et le fait qu'on peut avoir l'impression que des peines puissent être très légères, alors que certaines sont très lourdes, j'ai plutôt envie de penser qu'au contraire, ça montre qu'on est dans une justice qui fonctionne bien et qui cherche au maximum à individualiser les peines en fonction, oui, de la commission de l'acte, des circonstances, de la personnalité de la personne mise en cause, de l'intention, du dommage subi, tout un tas de critères que, oui, le citoyen, entre guillemets, lambda, n'a pas forcément dans les mains.
Alors, on dit, on discute pas la justice. C'est quand même là dommage dans ces conditions, parce que ça veut dire qu'on comprend mal la décision du juge qui apparaît comme étant l'oukase qui était ainsi décidé sans qu'il y ait de justification. C'est un petit peu embêtant, non?
Alors après la justice, elle se fait en public. Sauf circonstances particulières, n'importe qui peut se rendre dans un palais de justice et assister à un procès. Pour ce qui est, sauf erreur de ma part, les procès d'assises, il y a toujours un jury. Les citoyens sont impliqués dans la justice et c'est quand même une bonne chose.
Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait alors dire à nos auditrices, nos auditeurs, quand ils en ont l'occasion, d'assister comme ça à une session judiciaire pour pouvoir mieux prendre conscience de ce que sont les problèmes d'application de la justice?
Ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu la notion du contradictoire dans la justice, que les situations ne sont jamais aussi simples et caricaturales que ça, que lorsque une sanction est énoncée, ce n'est pas juste une sanction qui est prononcée par le juge, il y a aussi toute la justification de pourquoi. Et oui, ça permet de rendre moins simpliste la vision qu'on peut en avoir.
Alors, on arrive presque à la fin de notre émission. Où on va considérer vraiment de quels moyens on dispose pour essayer de limiter la manifestation de cette violence, pour essayer de la prévenir du mieux qu'on peut. Alors, je sais, parce que j'en ai discuté avec vous, que vous n'aimez pas du tout Emmanuel Kant, mais il a quand même écrit quelque part que la discipline transforme l'animalité en humanité. Alors, je ne veux pas du tout vous faire discuter sur Kant, mais on peut comprendre quand même dans ces conditions quel peut être le rôle de l'éducation. Et il me semble que dans les conditions actuelles, l'éducation est à revoir vraiment de fond en comble au niveau de nos enfants. Ils sont laissés beaucoup trop à l'abandon devant les vidéos, devant les tablettes, devant des propositions faites par les réseaux sociaux, etc., etc. Alors, de tout temps, il existait quand même des jeunes qui étaient, entre guillemets, révoltés, parce qu'ils manifestaient leur personnalité et ils voulaient montrer qu'ils existaient. Mais quand même, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une tendance qui devient un peu dangereuse. Donc, sans vous mettre sur la piste d'Emmanuel Kant encore, que si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez le faire, mais ce passage de l'animalité, c'est-à-dire de notre inné, jusqu'à l'humanité qui est l'acquis par l'éducation, est-ce qu'on pourrait essayer de voir comment il faut faire pour que nos enfants soient mieux éduqués, pour être informés par rapport à ce qu'est la violence, et d'autre part, pour qu'ils ne deviennent pas ces enfants violents dont on dit que dans les familles même disent « je ne peux rien en faire », entre guillemets.
Alors, ce qui est à noter, moi, ce que je trouve toujours un petit peu amusant, c'est que le jeune, entre guillemets, et surtout le jeune de nos jours, est toujours le jeune qui pose problème. On dit toujours « c'était mieux avant, aujourd'hui les jeunes », sauf qu'en fait, ça, c'est un discours qui se retrouve de manière continue dans l'histoire, proférés par des gens qui, au moment où ils le disent, ne sont plus jeunes. Si on reprend un petit peu, dans les années 1900, vous aviez les Apaches, les bandes de jeunes qui posaient des problèmes et donc qui ont amené notamment à la création des
tribunaux pour enfants.
Les blousons noirs dans les années 60. Dans les années 50, c'était la bande dessinée aux États-Unis qui rendait les jeunes délinquants et violents. Vous aviez les jeux de rôle sur table dans les années 80 qui rendaient les jeunes violents et satanistes. Vous aviez ensuite la musique rock, la télévision, les jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on dit, par exemple, la télévision rend violent, c'est toujours les jeunes que ça rend violent. Le jeune est vu parfois de manière très essentialisée, comme un monobloc, un peu suspect. On ne dit jamais « la télévision va rendre violent le père de famille de 45 ans ». Non, si encore ça doit rendre violent, c'est le jeune.
Encore que du point de vue politique actuellement, on voit quand même beaucoup d'adultes qui paraissent très violents.
Par contre, effectivement, notamment dans la sphère politique, on peut avoir des discours qui sont peut-être un petit peu moins apaisés qu'on pouvait voir avant. Oui. Une vision de la justice qui est aussi très attaquée, notamment par les politiques. Dès qu'un politicien se fait condamner, c'est parce que la justice elle-même est politisée. Ça, c'est des choses qui font perdre aussi un peu confiance dans la justice. Mais donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour que nos auditrices, nos auditeurs, avec leurs enfants, qui se trouvent quand même parfois dans des situations difficiles, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Qui aller voir le moment venu, s'ils ont besoin d'une aide ? Comment eux-mêmes peuvent s'informer ? Et comment ils peuvent essayer de régler des questions qui, aujourd'hui, deviennent majeures ?
Il est important déjà de garder en tête que l'enfant n'est pas un adulte en miniature qui grandit isolément. Il grandit dans une sphère familiale, dans une sphère sociale. Dans chacune de ces sphères concentriques, il peut y avoir des difficultés. Il faut, lorsque les parents...
Avec l'acceptation d'une différence, éventuellement, parce qu'ils ont un tempérament qui n'est pas forcément celui de leurs parents.
Tout à fait. Il faut, lorsque les parents sont en difficulté, qu'ils puissent facilement avoir accès à des conseils de guidance parentale, de posture.
Et comment on les a, ces conseils ?
Alors, vous avez parfois la justice qui ordonne la mise en place de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert avec des éducateurs, avec l'appui de l'aide sociale à l'enfance.
Vu de l'extérieur, on n'a pas l'impression que ça fonctionne très bien.
On ne parle que des situations qui ne se passent pas bien, par principe.
Comme les trains qui
n'arrivent pas à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est de prendre en charge tôt lorsqu'il y a des problèmes, lorsque vous avez un...
Mais ça, c'est important.
Complètement. Lorsque vous avez un jeune qui, effectivement, par effet de bande, se retrouve avec des pères eux-mêmes violents, l'effet, entre guillemets, de groupe, ça peut jouer, donc... Faire attention à ce que son jeune soit bien entouré, faire attention aux difficultés psychiques, un jeune qui va être dépressif, les comorbidités addictologiques, un jeune qui commence à toucher au toxique.
Alors est-ce que dans ce cadre-là, la consultation médicale, c'est-à-dire que le médecin traitant, le médecin de famille classiquement, c'est quand même un premier recours où le parent peut avoir accès en disant « Écoutez, voilà, j'ai constaté ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Est-ce que vous avez le sentiment, vous, psychiatre, que le médecin généraliste est bien formé sur cet aspect-là, où il y a des choses à revoir ou bien encore, est-ce que la psychiatrie française n'est pas quand même en jachère avec un nombre de psychiatres trop important, surtout un nombre de pédopsychiatres qui paraît très faible par rapport aux besoins ?
Je pense ne pas exagérer en disant que l'état de la pédopsychiatrie en France est dans un état de délabrement. On va utiliser des mots aussi forts que ça, avec un nombre de pédopsychiatres qui est très largement insuffisant, ce qui amène à des délais pour pouvoir consulter qui sont très insuffisants, des places d'hospitalisation en pédopsychiatrie qui sont beaucoup trop rares, une réactivité du coup des équipes qui malheureusement... est insuffisante aussi. La difficulté d'accès aux soins, ça participe, oui, à laisser des situations traîner, voire à des situations à s'aggraver.
Comment faire pour les parents, alors, s'ils se trouvent en face d'interlocuteurs qui n'existent pas ?
Alors là, malheureusement, il n'y a pas forcément de solution miracle, parce que les médecins, il faut 10 ans pour les former. Si eux, ils souhaitent devenir pédopsychiatres, il faut qu'ils acceptent de s'installer dans l'hôpital public qui a ses propres difficultés. Mais...
Et avec encore quelques années supplémentaires, parce que 10 ans pour un pédopsychiatre, c'est une formation qui me paraît courte, non ?
Bon, en 10 ans, on apprend déjà 2-3 trucs. Après, heureusement, il existe quand même un maillage sur le territoire avec des CMPP, des centres médico-psychologiques et pédagogiques. Oui. Beaucoup de services d'accueil des urgences sont aussi formés pour pouvoir accueillir des mineurs. Vous avez le développement parfois d'équipes mobiles, d'équipes de liaison. Le médecin généraliste, oui, évidemment, peut avoir un rôle central. Vous avez aussi tous les médecins libéraux, que ce soit des psychiatres.
Et qui vous paraissent suffisamment formés à cet aspect maintenant pédopsychiatrique et ils savent quoi faire par rapport à la violence quand elle se manifeste.
Bah, on pourrait dire que tant qu'il y a un jeune qui ne va pas bien, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu assez de soins. Faut garder en tête aussi que par rapport à un acte de violence, la réponse n'est pas forcément médicale parce que tout n'est pas sous-tendu par une pathologie psychiatrique ou par une souffrance psychique.
Absolument. Donc ça, pour ce qui est de la partie vraiment maladie psychiatrique, si vous l'acceptiez, Victor Rousseau, on serait très heureux de pouvoir vous interviewer sur un certain nombre de questions. Et bon, écoutez, on en arrive maintenant à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on aurait oubliés ou que j'aurais oublié de vous poser? Est-ce que, au contraire, vous pensez avoir dit l'essentiel? Quelle serait votre réaction à la fin de cette émission? Avez-vous envie d'ajouter quelque chose de plus?
Il est important de garder en tête, puisqu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, qu'une personne jeune, c'est une personne qui est en construction, qui va être façonnée par le milieu social dont il est originaire, mais par toutes les expériences de vie qu'il va traverser, et qu'à chaque étape, en cas de difficulté, il faut qu'il puisse être accompagné. Ce qui nécessite donc des actions de prévention, mais aussi des prises en charge dès qu'il y a le moindre problème, notamment addictologique.
Très bien, merci beaucoup, hein, Victor Rousseau, de nous avoir consacré du temps. En termes de conclusion, il semble que la science aujourd'hui, ou enfin, la neurobiologie, nous a montré que la violence est inscrite en partie dans notre patrimoine génétique au titre de l'agressivité, ne serait-ce que pour nous préserver. Mais nous sommes quelque part quand même des animaux sociaux et donc nous devons apprendre à gérer cette agressivité native. Et dans ce cadre-là, l'éducation, l'environnement jouent un rôle majeur. Et merci de nous avoir permis de soulever ces différentes questions avec autant de bienveillance. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir bientôt. Merci beaucoup, Victor Rousseau.
Merci de m'avoir invité.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.